Saviez-vous que le dernier Européen qui était connu pour avoir été en Orient à l'époque des voyages terrestres, lorsque c'était encore possible de passer à travers toutes ces terres qui vont être fermées à la suite des problèmes de Tamerlan et des attaques des Turcs, c'est un homme qui d'abord n'était pas un aventurier, c'était même pas un missionnaire, c'était même pas un diplomate, il n'était pas marchand comme Marco Polo, dont on a longtemps parlé. Ben, c'était un voyageur un peu malgré lui, c'était un Bavarois de très bonne famille, qui avait 15 ans lorsqu'il a été capturé lors d'une bataille, là on est aux alentours des années 1400, en 1396 à Nicopolis, et il participait à cette croisade incroyable qui a eu lieu contre les Turcs, et qui avait été menée par le roi de Hongrie, et pendant 32 ans, il va être esclave de Bajazet, du côté de ces pays de l'Est d'aujourd'hui, et c'est le dernier qui va se rendre jusqu'à Samarcande et qui va finalement pouvoir un jour revenir en Europe. C'est le dernier voyage en Orient par la voie de terre, et bien maintenant il faudra bien trouver un autre moyen d'y retourner, c'est-à-dire par la mer, et ça c'est un problème de portugais. Je viens de vous parler de ce Bavarois qui était Hans Schiltberger, qui était parti jusqu'à Samarcande et qui pendant une trentaine d'années a pu ainsi découvrir l'Orient. Et je vous ai dit que c'était le dernier grand voyageur à se rendre si loin, un peu comme Marco Polo, et qu'ensuite tout va être fermé. C'est vrai que on va avoir une espèce d'inconnu absolu pendant plusieurs dizaines d'années, et cette fermeture des routes terrestres, finalement c'est une chance incroyable pour les Européens, parce que ils vont avoir des raisons totalement nouvelles de se lancer sur les mers, et ces Portugais en particulier vont aller découvrir pratiquement pour toutes les destinations des voies maritimes complètement nouvelles. Alors tout était encore supputation, tout était encore inconnu, parce que essayez d'imaginer ce qu'est le mot Méditerranée d'abord. La Méditerranée, c'est le milieu des terres, c'est la seule mer dans laquelle on se baladait. Or, sa plus grande amplitude, c'est à peu près 800 km, c'est très peu de chose. Et tout à coup, il fallait aller ailleurs. Ailleurs, c'était obligatoirement du côté du Portugal, par exemple, qu'il fallait chercher la solution, c'est-à-dire, par exemple, l'Atlantique. Alors, que connaissait-on du reste, c'est-à-dire l'Afrique, l'Asie elle-même, c'était les récits de voyageurs. Et je vais encore parler d'un autre marchand, d'un autre aventurier vénitien avant de parler de la mer. Je vais parler de quelqu'un qui a été absolument déterminant, parce que les marchands de Venise ont été partout. Et je n'ai pas besoin de rappeler les aventures de Marco Polo, tout le monde les connaît et vous les avez déjà entendues dans cette émission. Mais c'est que ces sacrés vénitiens, dans les années 1400, ne voulaient absolument pas perdre leur contact incroyable qu'ils avaient obtenu depuis des siècles avec l'Orient. Alors, ils vont changer de route. Ils vont utiliser celle que j'appellerais la route du Sud-Est. Je vous avoue que quand on écoute l'encours, on a peut-être avantage à déplier devant soi un atlas ou une grande carte du monde pour s'y retrouver. Mais essayez d'imaginer cette route que cet homme va suivre. Ce Niccolo dei Conti, eh bien lui va partir du côté de l'Égypte, ça c'est normal. Il va ensuite descendre la mer Rouge, passer par le golfe d'Aden, la mer d'Oman, et puis il va finalement rejoindre, après avoir traversé le désert d'Arabie, suivi toute la côte occidentale des Indes, il va arriver jusqu'à Madras. Il va visiter ce qu'on a appelé à l'époque le tombeau de saint Thomas, qui on prétend toujours que saint Thomas, dans les écrits apocryphes, on dit toujours qu'il est allé très loin, qu'il est allé jusqu'en Inde. Il se rappelle avoir vu toutes ces forêts incroyables de cannelle, de l'île de Ceylan. Imaginez le voyage que ça représente, c'est presque aussi impressionnant que celui de Marco Polo. Il est allé à Sumatra, puisqu'il décrit l'or, il décrit le camphre, il décrit le poivre, et puis il parle aussi naturellement, miam miam, de ces fameux cannibales de la région. On en avait déjà parlé aussi à l'époque de Marco Polo, ça avait beaucoup troublé de trouver des gens qui se mangeaient entre eux. Et finalement, il va découvrir la Birmanie, parce qu'il se rappelle très bien avoir vu des gens tatoués, et il nous parle même des serpents pitons. Ça, c'est vraiment un voyage incroyable, mais c'est un voyage qui est purement terrestre, même s'il est encore allé à Java en faisant des petites traversées maritimes. Alors ça, c'est quelqu'un qui devient intéressant parce qu'il a épousé une Indienne. C'est un cas tout à fait unique. Il a pratiquement changé de religion, il n'est plus véritablement chrétien, et lorsqu'il revient, il s'arrête en Terre Sainte, il n'y croit plus, il arrive à Venise, et là, on parle de quelqu'un qui n'est plus chrétien et qui pourtant est vénitien. Et là, le pape va l'obliger à écrire ses aventures pour se faire pardonner, pour faire pénitence. Et c'est grâce au secrétaire du pape qu'on connaît les aventures de cet homme. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que si en 1444, on a un homme qui rentre d'Asie et qui nous décrit ce voyage incroyable, c'est qu'il est le premier à nous parler qu'il existe peut-être des îles orientales avec des épices, avec des choses incroyables, des trésors fantastiques, du côté de quelque chose qui s'appelle l'Afrique. C'est-à-dire qu'on pourrait peut-être, d'après sa description, comprendre qu'on pourrait contourner l'Afrique. C'est la première fois qu'on s'imagine que la mer, tout à coup, n'est pas une chose fermée en soi. C'est que les continents sont au centre et qu'on pourrait au contraire tourner autour de cet immense continent totalement inconnu que les Portugais vont petit à petit découvrir. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Contourner l'Afrique, elle va venir, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, naturellement à ceux qui sont placés exactement où ils doivent être placés sur la carte géopolitique de l'époque. Il n'y a pas de hasard dans l'histoire, pas plus qu'il y en a aujourd'hui lorsqu'on parle des pays de l'Est, ou pas plus qu'il y en avait lorsqu'on parlait de l'Amérique, ou de la ruée vers l'or, ou lorsqu'on a parlé de Christophe Colomb. Regardez un peu la carte de l'Europe et voyez où se trouve la partie la plus calme, la plus douce de ces années 1400. Sur le plan politique, sur le plan guerrier, toute l'Europe de l'Est est sans dessus-dessous pour des problèmes ottomans. On va prendre Constantinople en 1453. Enfin, il y a vraiment des problèmes très intenses. Tous les pays européens sont en ébullition, sauf un. le Portugal. Tous les pays d'Europe qui ont de la chance, en tout cas les plus développés au point de vue civilisation, donnent sur la Méditerranée, sauf un, le Portugal. Donc il y avait toutes les raisons de s'intéresser au point de vue destin à ce Portugal. Alors, bien sûr que ces marins portugais vont être stimulés parce que leur histoire et leur géographie est portée vers quelque chose de complètement nouveau. Eux ont toujours regardé l'Atlantique, ils sont tout au bout de la péninsule, et au milieu du XIIIe siècle, ils sont déjà dans leurs frontières actuelles, c'est-à-dire dans les frontières modernes. Ils ont déjà réussi à se séparer pratiquement de l'Espagne, et en fin de compte, eux ont des voies navigables, ont des ports très profonds qui sont tous tournés sur le côté atlantique. Donc, il y a aussi quelque chose de tout à fait nouveau en Europe, c'est que ces gens-là seront les premiers à ne pas avoir peur de l'océan. Car l'idée de l'océan, même si on la reprend jusqu'à la hauteur de Ptolémée, même si on repart dans l'Antiquité, tout ce Moyen-Âge a eu une peur atroce de la fin du monde physique au bout de l'océan, comme si cette assiette qui était la Terre se terminait dans un vide ou dans un espace aquatique qui était l'endroit de perdition, le point de non-retour. Alors, ces Portugais, ils vont donc oublier un peu tous ces centres que j'appellerais traditionnels de l'Europe, et ils vont regarder vers l'extérieur, vers cet océan dont je parlais, cet océan inexploité, et surtout vers des continents qui sont inexploités également. Je pense naturellement à l'Afrique, c'est normal, mais je pense aussi à l'Amérique, parce qu'après tout, le Brésil parle portugais aujourd'hui, et la destinée brésilienne avait déjà donné le Brésil avant qu'on découvre le Brésil et même l'Amérique dans son ensemble. Et ça, c'est une autre histoire, puisqu'elle se rattache à Christophe Colomb. Or, Christophe Colomb, quand on parle d'exploration, quelque chose de moderne, quelque chose de révolutionnaire, non, les vrais révolutionnaires de l'époque, ce sont les Portugais. Parce que Christophe Colomb, en fait, il a eu le courage d'emprunter une voie maritime que j'appellerais directe. C'est-à-dire qu'on avait pensé qu'en partant bêtement sur l'ouest, on finirait bien par arriver à l'est, puisqu'on savait maintenant que la Terre était ronde. On pensait que simplement qu'il y avait moins d'eau que ce qui est prévu. On avait pratiquement oublié le Pacifique comme densité et comme grandeur. Mais lui était parti dans une intention de trouver des terres connues. Il partait vers Cipango, il partait vers le Japon, il partait vers la Chine. On savait de quoi on parlait. Tandis que les Portugais, en voulant doubler l'Afrique, ils espéraient effectivement arriver aux Indes, mais il n'y avait que des supputations, il n'y avait que des rumeurs, il n'y avait que des hypothèses. Donc eux ont été les véritables précurseurs, les véritables découvreurs du monde, et ils ont eu cette audace que personne d'autre n'a eue dans l'histoire des découvertes. Alors, l'entreprise portugaise, il y a une autre chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est quelque chose qui n'appartient pas à un seul homme. On va reparler de Christophe Colomb tout à l'heure, parce que, ou peut-être dans la prochaine émission, parce que je pense que sur les Portugais, on pourra en parler un peu plus à fond. Quand Vasco de Gama, par exemple, va revenir de son voyage, c'est qu'il aura vraiment, pendant des mois et des mois, fait le tour de l'Afrique et découvert l'Inde, et qu'il soit revenu, ce qui est extraordinaire, Christophe Colomb va être complètement dépité, puisqu'il est à la cour du Portugal en ce moment-là, et qu'il espère vendre encore son voyage vers l'Ouest. Parce qu'il a déjà perdu son pari avec le Portugal. C'est pour ça qu'il va trouver les rois d'Espagne. Mais là, je me suis un peu écarté de l'histoire. Ce que je voulais dire, c'est que l'importance de l'entreprise de Colomb, c'était quelque chose d'audacieux, d'accord. Mais les Portugais avaient créé quelque chose qui n'appartenait pas à un seul homme. C'était une histoire d'État. Il fallait que tout le pays soit d'accord de partir à la conquête du monde. Et ça, ce sera l'aventure d'aujourd'hui de voir que c'est la première fois qu'une entreprise devient véritablement nationale. Tous les Portugais vont être concernés, leur royauté va être concernée, leurs princes vont être concernés, puisque Henri le Navigateur, dont nous allons parler, n'est en fait qu'un des princes du Portugal, mais que lui, en génial inventeur, un peu comme Saint-Louis, enfin comme des gens très créatifs, très curieux, dans cette fin du Moyen-Âge, va tout à coup déclarer qu'il est au bout du monde et qu'à partir du Finistère, à partir de cet endroit qui s'appelle Sangres, on peut effectivement découvrir le monde entier et doubler tout ce qui existait auparavant, les Génois, les Vénitiens, les Arabes eux-mêmes. Thank you. Je reprends encore juste un élément dans cette comparaison étrange que j'ai voulu donner entre Christophe Colomb et les premiers découvreurs portugais dont on va parler maintenant. Oui, cette différence, c'est que Colomb, il est parti, il a réussi quelque chose, mais c'était quelque chose que j'appellerais imprévu. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il a trouvé n'était pas ce qu'il croyait. Et finalement, on a trouvé l'Amérique par hasard et il n'avait pas du tout prévu qu'on trouverait un nouveau continent. Tandis que pendant un siècle et demi, les Portugais vont partir kilomètre après kilomètre à la conquête du monde en sachant pertinemment ce qu'ils vont chercher et ils auront un résultat immédiat. C'est-à-dire qu'ils vont véritablement remplir les caisses du royaume qu'est le Portugal simplement par action interposée, c'est-à-dire en descendant petit à petit le long de l'Afrique, en allant jusqu'en Inde, en installant des comptoirs. Et ça, c'est une chose très portugaise, qui vous fait d'ailleurs comprendre la différence de mentalité entre un Espagnol et un Portugais. Parce qu'après tout, quand vous discutez aujourd'hui avec un Brésilien, il n'a aucun problème de passer avec le Portugal. Quand vous discutez avec un Mexicain des Espagnols, il a un problème avec son passé espagnol. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que le long des côtes du Brésil, de l'Inde, toutes les colonies portugaises se sont relativement bien séparées du Portugal, parce que les Portugais ne sont jamais rentrés dans leurs colonies, au sens physique du terme, en tout cas jamais rentré en conflit avec les endroits colonisés. Et ça, vous allez voir aussi à quel point justement ce côté un peu antiraciste, assez curieux, assez mélangé, va faire que le Portugal lui-même, le Portugal de l'époque, était déjà complètement, on dirait, branché aujourd'hui sur ses voisins. Vous pouviez épouser une Africaine, vous pouviez épouser un Arabe, il y avait des Juifs, il y avait un mélange incroyable au Portugal. C'est ça la vraie richesse de la créativité, de l'exploration du monde par les Portugais. On n'est encore pas rentré dans l'aventure, mais c'est important quand même de faire ces petits préliminaires, parce que si vous regardez l'Afrique, bon, prenez la pointe du Portugal, il y a juste un tout petit détroit qui nous sépare de cet autre continent. Quand je dis qu'il n'y avait pas de racisme, c'est normal, puisqu'ils s'étaient déjà croisés depuis pratiquement des millénaires. En parlant plus simplement, on pourrait dire que les Portugais n'ont jamais eu l'esprit de clocher. Mon Dieu, si en Suisse, on le sait. Nous avons des Portugais en Suisse, ils aiment leur Portugal, mais ils voyagent, ils sortent, ils bougent et ils reviennent chez eux. Ce sont des gens qui sont habitués depuis des siècles à ce genre de choses. Vous me direz que c'est peut-être pour des raisons économiques aujourd'hui. Mais c'était déjà un peu le cas. Ce côté adaptable du Portugais a toujours existé, elle existe encore aujourd'hui. Alors, voyons cette espèce de mélange dont j'ai parlé. Moi, je dirais même, je suis américaniste de métier, c'est-à-dire que mon continent, c'est l'Amérique. Mais quand j'étudie le Portugal de cette époque, j'ai déjà l'impression, au 15e siècle, que je suis dans une petite Amérique. C'est-à-dire qu'on a déjà tous les éléments qui vont faire qu'en Amérique, on va faire un mélange incroyable de peuples, de cultures. Mais au Portugal, c'est la même chose. C'est un mini-creuset où il y avait des chrétiens, des juifs, des musulmans, je le rappelle. Alors, si on continue notre visite, si on revient en fait à ce côté africain, on va voir que ce brassage de culture, ce brassage de tradition va donner une énergie incroyable qui va les lancer sur les mers, mais qui va surtout leur permettre pour la première fois de revenir. Parce que ça, c'est important. Aller, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est revenir. Or, revenir, c'est la condition absolument sine qua non pour qu'on puisse s'enrichir. Là, je ne parle pas seulement de capital, mais je parle simplement d'enrichissement également au sens figuré. C'est les contacts avec les pays lointains, vous pouvez les avoir, mais si vous ne revenez pas pour raconter votre histoire chez vous, on n'avance absolument pas culturellement parlant. Alors, comment est-ce qu'il y a eu d'histoire d'actes dans le monde, dans l'histoire de nos entreprises humaines, qui sont restées sans suite parce qu'il n'y a jamais eu ce choc de retour? Moi, j'étudie beaucoup l'Amérique. Je reprends ce même exemple. C'est vrai que quand les gens me disent « Mais enfin, les Indiens sont venus par le détroit de Bering, est-ce qu'il n'y a jamais eu de contact ? Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce que les Vikings sont arrivés en Amérique ?» On a vu, les Vikings sont arrivés en Amérique. Mais ils n'ont rien laissé. Parce qu'il n'y a pas eu de retour au sens culturel du terme. Est-ce que les Chinois sont allés en Amérique ? C'est fort possible que quelques gens se soient perdus le long des côtes de Californie. On pense avoir retrouvé des témoignages. On a retrouvé des pièces de monnaie romaine au Venezuela et au Mexique. Pourquoi pas ? Rien ne me dérange si un bateau qui avait passé les colonnes d'Hercule se perd dans l'Atlantique, il peut finir en Amérique. Mais il ne revient pas. Donc il n'amène rien et il ne ramène rien. Et on peut avoir eu le problème pour toute l'époque, on sait par exemple, je prends un cas tout bête, en 1291, ça je me rappelle de la date simplement à cause de la Suisse, les trois Suisses, oui. En 1291, il y a quelqu'un de très connu, mais c'est pour autre chose, qui s'appelle Vivaldi, rien à voir avec la musique, qui lui est déjà parti depuis jeune pour faire le tour de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il avait déjà tenté ce qu'on va tenter dans quelques minutes avec les Portugais. Ben, malheureusement, il avait cette idée, mais il a disparu. Ben, il a peut-être découvert des choses incroyables, mais l'Europe n'en a jamais retenu le rapport et n'a jamais été favorisée par ses découvertes. Et puis, si j'ai parlé de ces découvertes un peu impromptues comme ça, pour tous les pays de l'Europe occidentale au 15e siècle, c'est parce que si un voyageur se perd et qu'il oublie de raconter son histoire, mais il a peut-être pu s'enrichir lui-même. La magie de Marco Polo, on en reparlera aujourd'hui, ce livre des merveilles, c'est qu'il a été en prison et qu'il a dû raconter son histoire. Il y a eu des centaines de Marco Polo qui n'ont rien redonné en retour, qui n'ont rien rapporté de leur voyage. Enfin, restons maintenant à ce 15e siècle, voyons un petit peu comment ça se passe. Vous êtes en pleine guerre de 100 ans. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait pris Constantinople en 1453. Tous les Balkans sont coincés. Et c'est vrai que l'Espagne est peut-être le seul pays qui aurait pu faire quelque chose à ce moment-là avec le Portugal, d'autant plus qu'eux ont des ports sur la Méditerranée. Mais il y avait des querelles intestines, il y avait des problèmes, il y avait une sorte d'anarchie. Le Portugal, c'est le seul qui est épargné de tous ces troubles. Alors, il fallait surtout quelqu'un pour mener les choses à bien. Alors maintenant, on va tenter de découvrir la personnalité d'Henri, celui qu'on va appeler petit à petit le navigateur. De cet Henri le navigateur. C'est un homme assez curieux. D'abord, c'est un visionnaire, incontestablement. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup d'audace. Puis en même temps, il est complètement casanier. C'est quelqu'un de complètement renfermé. Quand on pense à de l'exploration, on se dit, tiens, il va partir sur un bateau. Il va... Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui ne sortira jamais de chez lui. Il est enfermé, il conçoit et il envoie. Ça, c'est totalement nouveau. C'est un peu comme un chef d'entreprise qui envoie des représentants dans le monde. C'est véritablement une affaire commerciale. Donc, c'est quelqu'un de très glacé, qui a des contacts assez froids avec tous les individus, la cour qui l'entoure. Mais alors, il a des idées. La nuit, il est passionné. On sent vraiment que c'est quelqu'un qui, à chaque instant, va, dans sa tête, découvrir une possibilité d'exploit, d'aventure. Alors, vraiment, c'est peut-être la première fois qu'on trouve dans l'histoire quelqu'un qui est obstiné, qui a un sens de l'organisation aussi, ça je crois que c'était très important, et qui va créer en fait la première entreprise moderne de découverte. On va l'appeler le nouvel Alexandre. Remarquez qu'Alexandre, ce serait aussi un très beau sujet pour long cours. Mais Alexandre a voyagé, mon Dieu, s'il a voyagé. Henri le Navigateur est un Alexandre qui ne bronche pas, qui commande, comme Alexandre peut-être, mais sans bouger. Alors, je pourrais dire qu'il est vraiment le pionnier de ce que nous appelons aujourd'hui l'exploration, l'exploration moderne. Et avant de devenir une aventure maritime sur le plan planétaire, qui était l'idée d'Henri le Navigateur, je crois qu'il fallait d'abord commencer par concevoir une sorte d'aventure de l'esprit. Et ça, c'est aussi la force de ce Portugais, de cet Henri, parce que la grande aventure moderne, je le répète, l'exploration, elle devait d'abord s'accomplir dans le cerveau de quelqu'un comme Henri le Navigateur. C'est donc un penseur solitaire, c'est quelqu'un qui est enfermé, qui va concevoir cela. Alors, je dirais qu'il a mené une existence absolument incroyable. On sait par son biographe, par exemple, que le jour de sa mort, eh bien, bon, on savait plus ou moins déjà qu'il était vierge. Enfin, il a dû rester vierge toute sa vie. Pour un prince, c'est assez anormal, vous me direz. On cherche une descendance. Mais ce qu'on a trouvé lorsqu'il est mort, qui est beaucoup plus incroyable, c'est qu'il portait sur lui ce qu'on appelle une aire, avec un H, hein, H-A-I-R-E, et puis le cilice, c'est-à-dire qu'il portait cet étrange habit fait de crin, cette chemise de crin qui fait mal, et puis cette ceinture qui vous fait très mal. Donc il a vécu comme un moine. Il s'infligeait lui-même des pénitences comme le pire des mystiques de la belle époque. Et ça, sur un prince de sang qui, en fait, a dirigé le monde, ou en tout cas toute une partie du monde. Ça, je crois que c'est déjà un tout petit détail, mais qui nous situe déjà mieux le personnage. Et je pense aussi qu'il faut saisir que c'était quelqu'un qui, et c'est encore le Moyen-Âge, on va le voir jusqu'à Isabelle la Catholique, on va le voir jusqu'à la prise de Grenade, on va le voir jusqu'à la prise même des premiers pays américains. Ces gens-là étaient des gens du Moyen-Âge, ils pensaient encore aux croisades. C'était des croisés dans leur tête, et leur désir d'exploration, c'était surtout pour aller voir s'il y avait encore des chrétiens ailleurs. Vous allez voir que les Portugais ont cherché le prêtre Jean pratiquement dans tout leur voyage. Donc il y a aussi tout un côté mystique dans l'aventure de cette époque. Alors, je reprends juste quelques petits détails pour savoir un peu comment on se situe, parce que le Portugal, c'est pas le pays qu'on connaît le mieux sur la carte de l'Europe. Et il y a eu une famille royale qui est montée sur le trône à la fin des années 1385, grosso modo, il y a 500 ans, 600 ans, on va pas se tromper quand même. Et cette famille royale, elle va permettre en fait l'indépendance totale de ce Portugal. Elle va surtout sceller une alliance très étrange avec l'Angleterre. Et ça, c'est très important parce que les Anglais vont intervenir sur le plan militaire très souvent aux côtés des Portugais. Et puis, pour concrétiser cela, eh bien, ce premier roi du Portugal, qui est Jean Ier, va épouser une Anglaise, justement, une certaine Philippa de Lancastre, qui est la fille de Jean de Gand, et qui va complètement transformer la cour d'une femme extrêmement sévère, mais bizarrement, le roi va garder sa maîtresse dans le même palais sans qu'il y ait trop de problèmes. On dit que quand elle est rentrée, il n'y avait que vice, et lorsqu'elle est morte, la cour n'était que vertu. Ça, c'est selon les légendes portugaises. Elle va lui donner 3 fils, et je crois que c'est important. Et tout d'abord, et le troisième, c'est notre Henri le Navigateur, et puis ensuite, elle en fera 3 autres. Donc, il va naître juste avant les années 1400. Ça, c'est un tout petit point d'histoire, mais je crois que c'est important de voir qu'on démarre en 1394 avec la naissance d'Henri. Et pour véritablement sceller cette amitié nouvelle, enfin cette paix de la péninsule, on va créer une sorte de traité d'amitié avec la Castille, qui est donc l'autre gros morceau de la péninsule. Ça, c'est au début des années 1400. Alors le roi, lui, veut faire quelque chose de très curieux. Il veut faire un tournoi européen, il veut réunir tous les grands chevaliers et les grands princes d'Europe pour montrer que vraiment c'est une grande fête, que c'est fantastique, etc. Et ses enfants, les princes, et surtout Henri le Navigateur, lui répondent non, 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 non. Pas de tournoi, pas de grande fête. Ce que nous aimerions, c'est prendre une ville aux infidèles. Si nous partions à Ceuta et que nous pouvions nous laver vraiment les mains dans le sang des infidèles, je crois que ce serait le meilleur cadeau pour prouver cette alliance européenne et prouver que nous sommes vraiment des catholiques. Vous voyez que la croisade est encore là. Et cette prise de Ceuta, ça va être vraiment la grande surprise pour Henri le Navigateur, parce qu'il va organiser toute cette expédition et qu'il va surtout, et je crois qu'il a à peu près 19 ans à l'époque, il va surtout s'occuper de toute la flotte qui va partir vers Ceuta. On va se préparer pendant plusieurs années, il faudra 2 ans de préparatifs avant d'aller attaquer Ceuta. Vous voyez où est Ceuta? Vous voyez où est Gibraltar? Vous traversez, c'est du côté du Maroc, c'est juste un peu sur la droite face à Gibraltar. Donc c'est déjà du côté méditerranéen. Vous partez du Portugal, donc du sud du Portugal, et vous décidez d'attaquer cet endroit qui avait une importance qu'on ignore aujourd'hui. Enfin, on le sent quand même quand on visite cette partie du Maroc. On sent qu'il y a dû y avoir de grands contacts. On n'est pas loin du Sahara, on n'est pas loin des grands déserts du sud, on n'est pas loin de cette porte de l'Afrique, Tombouctou, etc. Tout arrivait à Ceuta. Il y avait des richesses incroyables. Et c'est là qu'Henri le Navigateur va avoir cette première envie de découvrir l'Afrique. Mais attendons quelques instants avant de passer à la bataille de Ceuta. Parti pour Ceuta, mais juste avant, il y a eu des présages absolument incroyables au Portugal. Il y avait un moine qui habitait dans le nord, du côté de Porto, qui avait eu, il avait eu une apparition de la Vierge. Et puis, il avait vu cette Vierge qui donnait une épée resplendissante au roi Jean. Et puis, il y a eu une maladie aussi assez étrange de la reine, Philippa, là, notre vertueuse, qui avait fait un jeûne qui lui avait pas convenu, était tombée malade. Alors, elle avait appelé ses 3 fils, elle leur avait remis un fragment de la vraie croix, en leur disant, écoutez, je vous offre une épée de chevalier, elle les a bénis, elle leur a dit qu'il fallait absolument qu'ils prennent cette place forte. Enfin, il y a eu une bulle papale aussi pour l'occasion. Et puis, il y a eu quelque chose d'étrange pour l'époque, il y a eu une éclipse encore. Alors, voilà l'armada portugaise qui attaque Ceuta, on est en 1415, puisqu'on a beaucoup de dates aujourd'hui. Et le combat, bon, il est tout à fait inégal, c'est une ville qui peut absolument pas se défendre, ça fait 2 ans qu'ils s'armaient, c'était vraiment l'idée d'un tournoi géant, mais de l'autre côté, on leur répond avec quelques cailloux. En moins d'une journée, bon, les Portugais vont prendre la place et Henri aura sa première heure de gloire. Il est jeune, je vous le rappelle. Dans l'après-midi, on va commencer le sac de la ville. Et c'est ça qui est important, parce que Henri va découvrir des choses incroyables. Le butin de Ceuta, c'était toutes les caravanes qui étaient venues de cette Afrique saharienne réunie, et puis même des Indes. C'est-à-dire, c'est une voie tout à fait royale qui passait par l'Égypte, etc. Alors, il va trouver naturellement les produits de base, du blé, du riz. Et oui, et on va trouver du sel, toute la route du sel africaine. Mais ce qu'ils vont trouver surtout, ce sont des épices. Le poivre, la cannelle, girofle, gingembre, des tapis, des kilims absolument superbes, des tapisseries qui ornaient les maisons des villes. Et puis il y aura de l'or, de l'argent, des bijoux, enfin tout ce qu'on peut rêver, trouver dans ce cœur de l'Afrique qui encore fait rêver les hommes jusqu'à la fin du 19e siècle. Quand je vous dis Congo belge, par exemple, vous rêvez. Eh bien, à l'époque de Ceuta, on faisait un peu le même genre de rêve. Alors lui, ce qui va l'intéresser pendant plusieurs mois, c'est de rester sur place. C'est sa force. Ça, c'est Henri. C'est le seul vrai voyage qu'il ait fait. Il va rester à Ceuta et il va essayer de contrôler tout le système caravanier d'Afrique, comprendre le système des caravanes. Il veut savoir pourquoi il y avait 24 000 boutiques dans cette petite ville. Pourquoi est-ce qu'on y trouvait de l'or, de l'argent, je l'ai dit, mais aussi du cuivre, des soieries. Et puis, d'où venaient ces épices? Et malheureusement, il s'est rendu compte que dès que la ville était devenue chrétienne, ce qui était le vœu des Portugais, cette ville va devenir une cité morte. Plus de commerce, plus rien, plus d'échanges. Alors, il a compris qu'il devait chercher à rencontrer tous les gens qui vivaient aux alentours, les tribus islamiques qui vivaient aux alentours, qu'il devait conquérir l'arrière-pays, qu'il devait aller encore plus loin. Ça, c'était la grande leçon portugaise. N'envahissez pas, vous perdrez le contact. Mettez des comptoirs. prenez des contacts réels, faites des échanges. Et là, il a une autre leçon qui me paraît très, très importante pour comprendre toute l'histoire du Portugal et toute l'histoire des colonies, parce que les colonies mondiales, on est encore dans l'histoire des colonies aujourd'hui. C'est que là, il va se rendre compte d'une chose, il va entendre parler de ce qu'on appelle le commerce muet. C'est une chose toute bête, mais c'est superbe. C'est un usage dans tous les peuples de l'Afrique que lui ne comprenait pas du tout, parce qu'au départ du Maroc, les caravanes musulmanes, elles traversaient l'Atlas, et puis au bout d'une vingtaine de jours de marche, elles atteignaient ce qui est aujourd'hui le fleuve Sénégal. Et là, les marchands, ils disposaient leurs marchandises. Ils faisaient des petits tas, comme ça. Il y avait le sel, ils mettaient des verroteries, un peu de corail. Qu'est-ce qu'on pouvait leur offrir encore? Tous les produits manufacturés du Nord. Et puis, on faisait des petites piles, comme ça, séparées. Et puis, on s'en allait, on se retirait. Puis, les indigènes arrivaient. Alors, eux, ils avaient de l'or. Il y avait naturellement des mines qui étaient à ciel ouvert, dans le Sud. Alors, ils faisaient des petits tas à côté, des produits marocains. Et puis, ensuite, ils se retiraient. Et nos Marocains arrivaient. Puis je dis, tiens, là, il n'en a pas mis assez, alors vous enleviez une ou deux choses. Et ça pouvait durer comme ça plusieurs jours jusqu'à ce qu'on soit d'accord sur le prix. Mais c'est un commerce totalement muet, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de conflit dans un commerce comme celui-ci. Il n'y a pas de conquête commerciale non plus. C'est un échange, c'est un troc parfait. Donc on attendait simplement que le prix offert soit exact. Et ça, c'est une grande leçon parce que ce système marocain qui permettait d'obtenir de l'or de toute l'Afrique... il a fonctionné parce que quand vous savez qu'à quelque part vous pouvez échanger un petit tas contre un autre tas, vous pouvez faire 1000 kilomètres pour aller changer votre petit tas. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui va faire naître des espoirs incroyables dans le cerveau. Je vous ai dit que l'aventure avait commencé dans la tête d'Henri le navigateur. Je crois que c'est là qu'il faut chercher la solution africaine. Et au lieu de rejoindre la cour à Lisbonne, eh bien Henri le navigateur, qui n'avait pas du tout envie de s'occuper de la gestion du royaume, il va se rendre à l'extrême pointe de son pays. Il va aller vivre jusqu'à la fin de ses jours au Cap Saint-Vincent. Je dois encore vous demander de reprendre une carte, mais c'est vrai que le Cap Saint-Vincent, mentalement, c'était le Finistère de l'Europe. Et ce Cap Saint-Vincent, si vous le regardez sur la carte, on y attachait une importance extraordinaire dans l'Antiquité, parce qu'on... Il a été décrit par Marantir, il a même été décrit par Ptolémée, vous imaginez le passé. Et Ptolémée l'appelait en fait le promontoire sacré. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, au Portugal, sur votre carte, c'est marqué Sagres, l'endroit sacré. Et donc, il a choisi volontairement Henri le navigateur, notre mystique, celui avec son cilice et qui est mort dans des conditions tellement curieuses. Il va choisir Sagres et il va donner en fait le nom à ce village et à cette pointe. Il va baptiser l'endroit sacré. Et aujourd'hui, il y a un phare, c'est vrai. Si vous y allez, vous voyez une espèce de phare sur des ruines de forteresses. Et c'est là que pendant 40 ans, une forteresse qui est complètement détruite, c'est là que pendant 40 ans, Henri le navigateur va créer son quartier général.
Baya sibiza masigo dugeni wo namhlanje siyajabula.
une chose assez étrange, c'est qu'il avait des astrologues et il a toujours su qu'il était né sous une bonne étoile et que son étoile, c'était celle qui permettrait de découvrir des terres lointaines et de rapporter des denrées qui pourraient enrichir son pays. Ça, c'est un aspect qui a dû être très important aussi, mais ce qui est surtout déterminant dans l'installation à Sagres, c'est que Henri le Navigateur va en faire un centre de cartographie. C'est la première fois qu'on s'intéresse véritablement aux cartes de géographie. J'en ai toujours une sous les yeux quand je vous parle, parce que je crois que c'est important. On va quand même un peu se balader aujourd'hui, on n'ira pas très loin, on finira peut-être à Madère, on ira faire un petit tour le long de la côte africaine. Mais là, il fallait avoir des cartes parce que... Il savait que pour aller vers l'inconnu, eh bien, il fallait qu'on connaisse déjà les limites du connu. Personne n'avait fait de carte d'importance avant lui. Si tous les juifs de Majorque, de Gênes et d'ailleurs avaient déjà créé, il y avait eu des cartographes assez essentiels au XIVe siècle. Mais ce qui est important, c'est qu'il va exiger, en fait, à tous ses marins, un journal de bord. C'est la première fois qu'on va demander que chaque marin fasse des croquis précis et exhaustifs de ce qu'il voyait le long des côtes, hein, rapporter tout ce qu'ils avaient vu. Donc il va accumuler par ses tracés des témoignages divers comme cela, et ce sont des juifs, parce que partout depuis longtemps ils ont été des ambassadeurs culturels incroyables. Je parle des juifs parce que je pense par exemple à Yehuda Kreskes, qui était le fils du célèbre cartographe qui avait créé pour la première fois un atlas complet du monde connu et qui avait osé, attention c'est un détail d'importance, il avait osé mettre des blancs sur une carte. C'était la première fois qu'on n'inventait pas des mythes ou des éléphants roses dans les endroits qu'on ne connaissait pas. Lui avait laissé des terra incognita dans certains endroits, et même l'Afrique était déjà dessinée comme une terra incognita mais complète. Ça, c'est une idée géniale, hein. C'était la révolution par rapport à tout ce qu'on connaissait de Ptolémée et de toutes les formes religieuses et chrétiennes où on voulait absolument voir le jardin d'Éden, où Jérusalem était toujours au milieu, etc. Ça, c'était le grand changement, c'était la grande révolution, et on la doit en fait à Henri le Navigateur aussi, parce que à Sagres, il y aura des marins, il y aura des voyageurs, il y aura des savants, enfin tout le monde va se réunir et on va retrouver surtout toutes les cultures du moment. Il y aura des juifs, des musulmans, bien sûr, des arabes, et il y aura des génois, des vénitiens, il va même commander certains ouvrages à des allemands, il y aura des gens encore plus au nord, les Scandinaves, qui avaient aussi des connaissances maritimes incroyables. On a parlé des Vikings sur cette antenne. Et je crois que cette idée de réunir tout cela, et surtout d'avoir des récits, des manuscrits de ces voyageurs, va lui permettre d'avancer énormément. Et puis il va envoyer même son propre frère, là je pense à Pedro. Donc Pedro, il va l'envoyer faire le tour des cours d'Europe pour aller chercher des secrets maritimes, pour aller chercher des cartes. C'est lui qui va revenir, par exemple, de Venise avec une copie du Livre des Merveilles de Marco Polo. C'est pas une petite chose. Quand vous lisez Marco Polo, tout à coup, vous avez toute l'Asie sous les yeux. Eh bien ça, Henri le Navigateur l'a eu dans sa forteresse de Sagres. Il a obtenu tous ses ouvrages. Donc il a été très bien secondé. Et juste à côté de Sagres, si vous regardez une carte encore plus précise, il y a un petit port qui s'appelle Lagos. On connaît mieux Lagos en Afrique, mais c'est aussi pour des raisons portugaises. Et là, il va définir tout un système de construction navale. C'est important. C'est-à-dire qu'il va créer surtout un tout nouveau type de navire. C'est ça la grande révolution d'Henri le Navigateur. Vous avez déjà compris ? C'est la caravelle. Il va inventer la caravelle parce que c'est un bateau spécialement conçu pour ramener les gens à leur point de départ. C'est un bateau pour aller, mais surtout pour revenir. C'est-à-dire que la raison d'être d'une caravelle, c'était pas de transporter des marchandises, parce qu'on avait des bateaux énormes, les Vénitiens avaient des choses qui étaient 50, 100 fois plus grandes qu'une caravelle à l'époque. Non, l'idée, c'était de pouvoir parcourir une longue distance sur des eaux totalement inconnues, au besoin de se déplacer contre le vent. Là, je parle pour des marins, on est encore sponsorisé par une agence de voyage sympathique qui s'occupe beaucoup de voiles, et il fallait absolument aller, mais surtout revenir. C'est-à-dire, sans retour, pas de découverte, on l'a déjà dit. Et c'est pour répondre à ces besoins de l'explorateur qu'a été conçue cette caravelle sous la direction de notre prince. Il a emprunté pour cela ce qu'on appelle les caravos. Les caravos, ce sont ces navires qui ont été utilisés depuis longtemps par les Arabes le long des côtes d'Égypte. On en trouve aussi en Tunisie. C'est un bateau très spécial qui a été peut-être inspiré d'ailleurs des bateaux grecs, hein. Ça, c'est encore plus ancien, des bateaux qui étaient faits en jonc ou en peau, en simple peau d'animal. Et ces navires arabes, ils étaient équipés de voiles qu'on appelle latines. Ce sont des voiles qui sont triangulaires. populaire et qui pouvait transporter assez peu d'hommes, une trentaine d'hommes grosso modo, avec quelques chevaux. Enfin, on prétend même qu'on pouvait mettre jusqu'à 60 ou 70 chevaux à bord. Mais c'est un bateau tout à fait semblable, mais beaucoup plus maniable qu'Henri le Navigateur va créer, c'est-à-dire la Caravella. Et là, c'est le diminutif, hein, vous l'avez compris. Donc, ils vont arriver à conjuguer, si vous voulez, les capacités de charge du Caravao et en même temps le côté manœuvrable, enfin la manœuvrabilité, si ça se dit, de la Caravella. Ça, c'est l'idée de base, c'est l'invention qui s'est faite à Lagos, juste à côté de Sagres. Alors, sur une Caravelle, on ne met pas beaucoup de monde, hein. Un peu d'imagination, là. 20 personnes à bord, très peu. Un bateau qui fait à peine 20 mètres de long. Quand vous parlez d'un voilier de 20 mètres sur le lac Clément, c'est déjà un beau voilier, je suis d'accord, mais ça n'est pas très grand. C'est un bateau qui fait 7 mètres de large. Là, je donne les dimensions type, hein. Donc, c'est tout petit, c'est une coque de noix. Et c'est avec ça, d'ailleurs, qu'on a découvert l'Amérique, qu'on a fait tous ces grands voyages dont nous allons encore parler. Mais ça a été le meilleur bateau qu'on ait jamais inventé. Alors, toutes les expéditions africaines vont montrer que ces caravelles arrivaient bien à revenir, justement. Elles sont fiables, elles ont un tirant d'eau qui était intéressant parce qu'il permettait d'aller tout près des côtes. Et surtout, c'était cette capacité de naviguer ce qu'on appelle en marine par vent debout. C'est-à-dire que la caravelle pouvait partir en ayant le vent par l'arrière. Ça, c'était formidable, tout le monde était content, les marins démarraient très vite. Mais ils savaient pertinemment qu'ils pouvaient prendre exactement le même chemin avec un vent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en se tournant à l'envers, ils avanceraient quand même. C'est ça la grande révélation. Alors, si c'était conçu pour un retour qui était peut-être un peu plus lent que l'aller, puisque d'abord on suivait les courants pour aller plus vite, c'était normal, je crois qu'on accepte surtout de partir. On perd un peu la peur de l'inconnu si on est sûr de pouvoir faire le chemin inverse. Et Lagos, qui est à quelques kilomètres de Sagres, je vous le rappelle, ça va devenir ce chantier incroyable parce qu'à côté, on a des bois de chêne pour faire les quilles, on va trouver des bois de pin. Ah ben, les bois de pin du Portugal vont être réquisitionnés par la couronne, donc c'est une chose qui, au point de vue loi, sera complètement protégée. On veut la résine, on veut le bois lui-même, il faudra boucher, colmater ces bateaux de façon tout à fait précise, c'est-à-dire qu'il faut calfater tous les interstices des bordages, il faut étancher aussi, bien sûr, les gréments. Et autour de Lagos, bah, très rapidement, on va avoir des fabriques de voilures, des fabriques de cordages. C'est une entreprise incroyable. C'est vraiment une forme industrielle qui va s'inventer à cause d'Henri le Navigateur. Donc, un institut de recherche, une immense fabrication navale, des livres, des cartes, des pilotes, des marins, des fabricants d'instruments nouveaux, parce qu'il faut aussi tout à coup découvrir de nouvelles façons de s'orienter. On le verra lorsqu'on passera à l'équateur. Ça n'est pas un détail, c'est la première fois que l'Européen va descendre si bas. Regardez les côtes d'Afrique, elles sont immenses. Le voyage d'Afrique pour aller jusqu'en Inde, c'est 3 fois celui de Christophe Colomb. C'est 19 mois de navigation qu'on va avoir au bout de notre chemin royal portugais. Eh bien, effectivement, quand on passera l'équateur, on va perdre quelque chose d'essentiel. L'étoile polaire. Donc il faudra inventer de nouveaux instruments pour viser le soleil, pour s'y retrouver, pour savoir exactement comment s'orienter par rapport au ciel. Et je finirai le voyage d'aujourd'hui en fait en découvrant, bon, ça vous le savez, les îles Canaries, les îles que l'on nomme celles de la région de Bojador, c'est-à-dire ces îles du sud, ce cap du sud que personne n'avait jamais osé passer. Ben ça va se faire assez rapidement, mais j'aimerais juste qu'on termine notre émission sur un vin délicieux, sur celui de Madère. Et c'est vrai que quand on parle des îles, les premières îles qui seront vraiment portugaises, je pense aux Açores, je pense à Madère, je pense aux Canaries, ben on sait qu'elles avaient déjà été découvertes par les Génois, peut-être au XIIIe siècle. Mais la différence, c'est que le prince Henri, en partant dans cette direction vers la mer ténébreuse, vers ce côté inconnu des choses, c'est pas tellement pour découvrir à ce moment-là qu'il veut y aller. C'est vraiment une idée de développement, plus que de colonisation. Et lorsqu'en 1420, on va véritablement débarquer à Madère, vous savez qu'en portugais, Madère veut dire Madeira, Madeira ça veut dire bois, hein. Donc c'est une région, enfin c'était une île complètement couverte de forêts. Bon, alors on va entreprendre d'abord l'éclaircissement, enfin on va vouloir déboiser l'île, et malheureusement on va provoquer un incendie qui va faire rage pendant pratiquement 7 ans. L'île va brûler intensément. Et on ne l'avait pas cherché, mais en fait, le fait d'avoir autant de bois brûlé, ça va créer une potasse, un engrais extraordinaire qui va se produire par simplement la combustion hein, de ce bois et qui va être un support excellent lorsqu'on va y planter de la vigne qu'on va ramener de Crète. Ben, ils vont la planter pour remplacer en fait les arbres qui sont perdus. C'est ainsi qu'est né justement ce vin de Madère. Mais reste que comme l'avait prédit en fait son astrologue, Henri le Navigateur, par tempérament, par goût pratiquement, ben, c'était d'abord un découvreur, ça n'était pas forcément un colonisateur. Madère, c'est un peu l'exception. C'est une exception de très bon goût d'ailleurs. Conclusion, avant de nous retrouver la semaine prochaine, j'aimerais que vous regardiez une dernière fois la carte, ou que pour la prochaine fois vous preniez peut-être votre carte de géographie, c'est-à-dire que vous regardiez un peu la carte de l'Afrique, parce qu'il faut chercher très longtemps pour trouver le cap Borrador, ça veut dire renflement en portugais, ce cap qui est sur la côte ouest, juste au sud des Canaries. Ça, pour l'époque, pour les Portugais, c'était la limite du monde. Personne n'avait jamais osé passer ce cap. Eh bien, grâce à Henri le Navigateur, nous allons le passer.